me faire bien comprendre. Ce que je vais décrire, je vais m'appuyer un tout petit peu sur cet article dont tu as parlé pour reprendre quelques points forts de la démarche avant, qui débouche finalement sur cette expérience de Dakar sur laquelle je vais peut-être m'étendre un peu plus. Je vais m'appuyer sur cet article et porter un focus sur deux, trois choses. La première, c'est que ça ne concerne pas la totalité de mon travail. C'est-à-dire que je ne fais pas de la recherche que comme ça. Je n'en fais pas une théorie générale, ni pour les autres, ni pour moi-même. Mais dans un certain nombre de circonstances pratiques, des situations pratiques sur lesquelles nous allons enquêter, et des circonstances historiques, théoriques sur lesquelles je vais revenir, il y a des dispositifs de recherche qui s'imposent, et qui s'imposent d'une façon qui n'est pas que méthodologique. C'est-à-dire que ces dispositifs de recherche, c'est des dispositifs intégrés où il y a à la fois la réflexion sur la conjoncture théorique dans laquelle nous sommes, et politique aussi, parce que, bon, je reviendrai là-dessus, mais on peut difficilement séparer les sciences sociales de la politique quand même, et une méthodologie. Il n'y a pas de. Moi, je reprendrai de ce point de vue-là l'expression de Sylvain, que Sylvain développe dans un de ses bouquins, qui est l'enquête est une catégorie de la connaissance. Ce n'est pas simplement une méthode, ce n'est pas simplement un outil. C'est de l'enquête que découlent la puissance et les limites du savoir qu'on va pouvoir ensuite partager. Ou qu'on va pouvoir peut-être partager dès le début de l'enquête. C'est ça le point, hein, quand même. Voilà, ça c'est un premier point, parce que comme par ailleurs je travaille sur les émeutes à partir d'Internet ou d'observations participantes, je ne le fais absolument pas de la même façon. Mais il y a des choses où ça va se poser comme ça, et il y a des choses qu'on ne peut connaître que comme ça. La deuxième grande idée, c'est que effectivement, je prends au sérieux l'historicité de nos disciplines. C'est-à-dire que je ne crois pas que j'ai eu l'occasion d'en discuter déjà, notamment avec les doctorants ici présents, certains, les miens. Je ne crois pas qu'il y ait une science sociale qui constitue un ensemble de connaissances scientifiques qui soit de même nature que les autres, dans ce sens où c'est pas cumulatif, où c'est pas unifié, et on le sait, depuis que les sciences sociales existent, on s'empaille sur le régime de vérité de telle ou telle discipline, et d'ailleurs il y a des disciplines qui vont disposer des régimes de vérité différents, et différents entre elles, différents dans le temps, et différents à l'intérieur, parce qu'il y a des écoles dans les disciplines. Donc, nous sommes dans une production de savoir, et je ne me résous pas à obtempérer devant l'injonction de scientificité qui nous est faite régulièrement, soit par des collègues de disciplines dites inhumaines, non, pardon, dures, excusez-moi, et soit par le ministère, parce que c'est exactement cette injonction, c'est le discours de Jacques Dubus qui représente les sciences sociales à la DGRI. Je l'ai entendu pas plus tard que mercredi matin, bon, mardi après-midi, pour dire des choses comme ça. Donc je ne me résous pas à ça. Nous ne sommes pas tout à fait des sciences, nous ne produisons pas tout à fait de la science. Nous pouvons avoir des régimes de vérité qui s'en approchent pour un certain nombre de données que nous pouvons produire, données quantitatives notamment, mais pour l'essentiel, ce qui fait l'intérêt des sciences sociales et humaines, mais y compris pour les entreprises aujourd'hui, enfin ça c'est un autre problème, c'est que justement c'est pas ça. C'est qu'on produit un savoir, et qu'on produit un savoir qui rentre en dialogue et en dialogue et/ou concurrence avec d'autres types de production de savoir dans la société, de la production de savoir institutionnelle notamment, étatique, de la production de savoir politique et la production de savoir par les gens eux-mêmes qui, sur les situations auxquelles ils sont confrontés, produisent forcément, pour leur propre compte, une expertise. Donc nous sommes parmi ces savoirs-là, nous utilisons simplement les mêmes mots que les autres, c'est-à-dire que nous faisons avec, avec le langage vernaculaire, et ce qui nous amène d'ailleurs systématiquement à travailler à sortir nos mots, qui sont les mêmes mots que ceux qu'on trouve dans le dictionnaire, pour leur rompre la polysémie et leur donner un sens particulier, définition, c'est-à-dire les catégories, concepts, etc. En même temps, c'est très fragile, on sait que ça bouge. Voilà. Donc, ça, c'était ma deuxième grande idée. Autre idée, c'est que dans cette historicité, il y a un rapport étroit avec le dialogue, avec le politique. Il y a une histoire commune au XIXe siècle de la genèse du socialisme et de la sociologie. C'est pas qu'une question d'épistémologie. C'est-à-dire qu'il y a une question de besoin de savoir qui est générée par des mobilisations sociales en dissidence ou en conflit avec le pouvoir politique ou économique. Et ce besoin de savoir ouvre un espace à une discipline. Les premières enquêtes sociologiques, c'est sur le monde ouvrier. C'est Villermé en 1847, même si ce n'était pas un socialiste. Non. Voilà. Bon, ce besoin de savoir, il s'est aussi développé du côté du patronat, qui a aussi financé aux États-Unis dans les années 30 les premières enquêtes d'usines. Ou l'État, qui a financé, après la Seconde Guerre mondiale, des enquêtes d'usines aux États-Unis pour voir comment on pourrait implanter le Fordisme en France. Ça a fait la fortune de jeunes chercheurs qui s'appelaient Touraine et autres à l'époque. Donc il y a un rapport étroit entre cette production de savoir et une demande sociale. Mais une demande sociale, je prends cette histoire de la sociologie de façon volontaire, parce que c'est aussi un peu emblématique, une demande sociale qui est en conflit elle-même. Et de bien identifier au XIXe et au XXe siècle que nous sommes donc dans un champ de savoir qui est en dialogue avec des acteurs antagoniques. Ce qui est extrêmement confortable, enfin inconfortable, mais en même temps confortable, parce que ça nous permet de dire, nous, on est un tiers. Ça ne peut nous permettre de dire, quand ça va trop mal, nous, on est un tiers-lieu, et nous produisons du savoir, et nous ne sommes au service de personne, quelque part. Voilà. Et les uns et les autres s'en accommodent. Les uns et les autres s'en accommodent parce que on peut dire que des décisions étatiques peuvent dire, mais nous appuyons sur des recherches scientifiques, et des discours syndicaux peuvent dire aussi, nous appuyons sur des recherches scientifiques. Donc, tout le monde s'en accommode de cette affaire-là. Alors, ça, c'est une histoire conflictuelle. L'histoire de ma discipline, qui est l'anthropologie, elle est encore plus conflictuelle et plus sanglante, parce que c'est celle de la colonisation. Et donc, il y a un certain nombre de mes anciens collègues, que je ne nommerai pas, il y en a quelques-uns en tout cas, qui se sont retrouvés, comme on dit aujourd'hui des journalistes, embarqués, embed. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont été des bonnes ouvertures aux poussées de l'armée coloniale. D'autres qui ont pris plutôt fait et cause pour les peuples colonisés. Mais on était aussi dans cette ambivalence. La quatrième idée importante, à mon sens, que j'essaye de développer dans cet article, la quatrième idée, c'est que ce dispositif-là, c'est-à-dire ce dispositif antagonique, dans lequel la demande de savoir qui était adressée pouvait être adressée de part et d'autre, et donc ouvrir un champ, je dirais, de neutralité axiologique, d'une posture de neutralité axiologique face à ces demandes variables, ce dispositif-là est fini. Il n'y a pas que ça qui est fini. C'est-à-dire que nous vivons depuis une trentaine d'années une période où toute une série d'institutions, de subjectivités, de façons de penser qui sont nées entre le XVIIIe et le XIXe siècle et qui ont largement organisé la vie politique et la vie intellectuelle du XXe siècle ne fonctionnent plus. Il y en a des restes, il y a des buts témoins, mais le dispositif lui-même ne fonctionne plus. Aujourd'hui, où est l'équivalent de la demande antagonique de savoir sur le social et sur l'usine, qui était, jusque dans les années 80, un syndicalisme puissant et un patronat en train de réorganiser les conditions de travail à l'usine. qui a permis à des gens avec lesquels j'ai travaillé avec Société française comme Yves Clos d'avoir des recherches financées par la CGT sur la transformation des postes de travail des conducteurs de train dans le TGV, par exemple. C'est où aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, ce qui se dispose comme force face à des pouvoirs qui ont toujours, eux, une présence et une demande de savoir, éventuellement, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. De beaucoup plus complexe. Au mieux des mouvements qui ne s'inscrivent pas dans une organisation dans la durée, donc qui ne sont pas forcément des interlocuteurs. Alors j'ai travaillé par exemple avec le Forum social européen en 2003. Parce que bon, j'étais dans le processus. Il se trouve que je me suis retrouvé au secrétariat d'organisation du Forum social européen de Saint-Denis-Bobigny. Et je continue à travailler. Je continue à être ethnologue, moi, quoi qu'il arrive, si vous voulez, à un moment donné. Donc je me suis dit, tout ce qu'on a fait là, tout ce qui s'est passé, il faut qu'on arrive, par exemple, à en organiser la mémoire et en faire l'archivage. On a travaillé là-dessus. Sauf que c'est typiquement un mouvement qui est né exactement au début du XXIe siècle, mais qui n'a pas du tout la même structuration, la même continuité, la même culture d'organisation, le même récit collectif que le mouvement syndical ou des mouvements politiques. Donc ça, on ne l'a pas. Par contre, du côté de l'État, on l'a toujours. Donc ça nous met dans une sacrée situation. Je dis ça, c'est au mieux, parce qu'au pire, on se trouve dans la situation dans laquelle on est depuis un mois, c'est-à-dire un CNRS qui envoie aux chercheurs une lettre de commande en disant « Sur les attentats, le djihadisme, vraiment, on est à la ramasse, ce qui est vrai, il faut que vous nous fassiez des propositions. » Et là, c'est très compliqué. Parce que, alors j'en ai fait une proposition, mais c'est très compliqué, parce que on est dans un antagonisme et dans lequel on n'a vraiment pas envie d'être neutre, bien sûr. En même temps, on ne peut pas faire le travail de la police. Donc, on peut devenir des enquêtes de police dans ces conditions-là. Donc, il faut se prémunir. Il y a de nouvelles conditions, ne serait-ce que pratiques, qui se pose. Voilà. Alors, quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette rupture? Moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on a fait la revue Société française dans les années 80, avec Serge Wolikoff, Yves Clos, Jean-Pierre Terraille, Jean-Yves Rochex, qui est encore enseignant ici, aucun d'entre nous n'avait une inscription universitaire, à part Jean-Pierre Terraille qui était assistant à l'époque.
Yves Clos, peut-être.
Ah non, Yves Clos, il était conseiller d'orientation. On était jeunes. Hein. Quand on a fait ça, on s'inscrivait dans un dispositif où on essayait de peser sur un dispositif théorique politique, qui était le marxisme et un marxisme de parti, à partir de recherches, mais on ne voulait pas que ce soit des recherches universitaires uniquement. Donc on s'est dit quand même, si on prend au sérieux le marxisme, la lutte des classes et toute la culture du mouvement ouvrier, on ne peut pas penser que les chercheurs, ils sont capables de penser à la place des ouvriers. Et donc, si on veut avoir une connaissance sur les mutations réelles du monde ouvrier à l'époque, on a besoin de dispositifs de recherche qui intègrent les intéressés aux dispositifs de recherche, qui les intègrent et qui permettent de produire une connaissance nouvelle d'un type particulier qui soit la question de la question. Il n'était pas question là de restituer aux intéressés la recherche, mais on produisait une connaissance qui soit utilisable dans différents espaces. Et il y a tout un travail. Yves Schwartz, qui est professeur, je pense qu'il est émérite maintenant, qui est professeur à Aix, a monté un laboratoire sur cette hypothèse et a fait un gros bouquin qui s'appelle « Expérience et connaissance du travail », des philosophes de formation et qui travaille justement sur le statut des mots et le statut des catégories dans ce type de dispositif, en pensant qu'il y avait une commutativité des mots, ce que je ne pense plus. Mais on était dans ce dispositif-là. Ça a cessé de marcher, le dispositif qu'on avait mis en place et le collectif, avec l'effondrement de l'URSS. Voilà. On ne s'en est pas complètement aperçu sur le coup, mais moi, du coup, j'ai plus envie de faire ça. Voilà. Mais cet effondrement et ce changement a des effets institutionnels, ça a aussi des effets intellectuels. D'ailleurs, je suis parmi ceux qui posent l'hypothèse que les catégories, les concepts, un certain nombre de paradigmes qui nous ont permis de penser jusque dans les années 90 ne fonctionnent plus pour penser le monde d'aujourd'hui, la conflictualité d'aujourd'hui, les mobilisations d'aujourd'hui, entre autres, s'il y avait que ça. Mais c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et que donc, pour une part, aujourd'hui, l'enquête, elle porte sur la nouvelle intellectualité de la nouvelle période. Et que la question n'est pas de savoir comment on arrive à prendre les mots du langage courant pour en faire des catégories et des concepts. C'est le problème est de savoir quels sont les mots pertinents qui aujourd'hui circulent dans le monde social, que nous ne connaissons pas forcément, et dont il va falloir se saisir si on veut avoir des outils intellectuels pour dire ce monde et en faire le récit. Donc, c'est l'enquête sur les mots, l'enquête sur les récits. C'est ça qu'on a fait avec Sylvain Lazarus, qui lui a théorisé cette affaire dans sa thèse d'État qui s'appelle « Anthropologie du nom ». C'est ça qu'on a fait pendant 10 ans avec la maîtrise de sciences et techniques, formation à la connaissance des banlieues. On avait trouvé une niche universitaire, puisqu'on avait, ça n'existe plus, les MST. C'était niveau L3, M1, en fait. Hein, c'était sur 2 ans niveau. Et c'était professionnalisant. Et donc, on avait à la fois des gens qui étaient en formation professionnelle, des gens qui étaient en formation continue, et avec donc des terrains possibles. Parce que les gens en formation continue, c'était une EMST, formation à la connaissance des banlieues. Donc, cette EMST accueillait des éducateurs, des cadres de mairie qui étaient en difficulté, parce qu'ils avaient la culture de la période précédente et qui étaient en difficulté devant les phénomènes auxquels ils étaient confrontés avec les générations qui étaient en train de monter. Donc, on a fait des enquêtes sur des situations avec des questionnaires et on travaillait sur les textes et sur les mots, pour sortir un certain nombre de mots problématiques et de mots qui nous permettraient de penser les choses et de voir comment ces mots étaient articulés dans l'espace intellectuel des gens ordinaires, ce qui est une façon de nommer ce que dans ma discipline, depuis très longtemps, on appelle la culture, tout simplement. Voilà. Et là, on avait besoin, c'est-à-dire, on faisait l'enquête sur les mots, on analysait les textes en essayant de sortir des textes les mots problématiques et les énoncés qui nous permettaient de comprendre les choses, mais on avait besoin d'un retour. C'est-à-dire le retour, la restitution des résultats par le colloque public annuel auquel on invitait les gens avec lesquels on avait travaillé, c'était pas simplement pour leur faire plaisir ou parce que c'était une obligation morale, ce que je crois que c'est une obligation morale. Tu as rappelé que je le dis dans l'article, et c'est, pour moi c'est extrêmement important, mais après, concrètement, il faut voir comment ça se passe. C'est qu'on en avait besoin, ça faisait partie de l'enquête d'avoir ce retour. Ça, c'est tout simplement, est-ce qu'on s'est planté ou est-ce qu'on s'est pas planté? Qu'est-ce que ça produit? Ça a été quelque chose d'extrêmement productif dans notre formation notre formation intellectuelle. Alors on a travaillé sur les banlieues, on a fait une grosse enquête à la fin du XXe siècle, 96-97, sur les résidents retraités des foyers Sonacotra d'Argenteuil. Parce que là, c'était pareil, une institution qui ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi les ouvriers retraités ne retournaient pas chez eux en Algérie ou au Maroc. Donc on les a interrogés et on a travaillé avec eux pour ça. Et ils ont compris. On en reparlera si des résultats, mais ça a été quelque chose pour moi d'extrêmement formateur. Deuxième tournant, où là j'en viens peu à peu à Dakar. Deuxième tournant, c'est 2005. C'est les émeutes. Parce que là, alors, moi, ça m'a développé tout un champ de travail qui n'est pas épuisé. Ça m'occupe toujours 2 heures par jour. Mais si travailler sur les mots, quand, pour comprendre ce qui se passe dans la société, comment la société s'organise, comment elle se pense, dans quel nouveau monde on est en train de rentrer, et avoir comme interlocuteur principal, ou privilégié, ou de cœur, on va dire, les mobilisations populaires, et se retrouver devant une mobilisation qui n'a pas de mots, là, c'est une autre paire de manches. Parce que ce qui caractérise ce qui s'est passé en 2005, ben, vous savez bien, c'est que par exemple, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Il y en a qui vont essayer de prendre, de dire émeute, révolte populaire, événement, chacun a son argumentaire. Chacun a son argumentaire. Mais ça peut pas être. C'est difficile d'avoir les mots de ceux qui ont fait, parce que justement. Ils ont fait des choses, ils ont fait des actes, et les actes, c'était ça les paroles. Il n'y avait pas de revendication, il n'y avait pas de mot d'ordre, il n'y avait pas de banderole, il y avait ici on brûle une école, ici on brûle pas une école. Ici on brûle un dépôt de bus, ici on casse des vitrines. C'est-à-dire que les actes étaient le langage par défaut de mots communs. La question qui se pose alors, c'est que l'antagonisme, il est tel, si on continue à prendre cette catégorie-là, qu'il n'y a plus d'espace commun du tout entre le pouvoir et les mobilisations, au point que les mobilisations n'ont plus envie de parler. Parce que il y a eu plusieurs interprétations, ou tentatives d'interprétation après les émeutes, notamment l'idée que s'il n'y avait pas de mots, c'est qu'ils n'étaient pas en capacité de penser. Ou qu'ils n'étaient pas en capacité de parler. Un certain nombre d'articles, voire de livres, qui ont pu être rédigés sur cette hypothèse. Ce n'était pas la nôtre, parce qu'on avait, pendant 10 ans avant, fait systématiquement des enquêtes dans des cités, et qu'on savait pertinemment que de la pensée élaborée et de l'usage un petit peu élaboré des mots sur un certain nombre de sujets, il y en avait. Ce n'était pas une question de niveau de diplôme. Simplement là, il y avait la volonté explicite de ne pas les utiliser. Parce que c'était plus possible. Et parce que, alors le mot émeut, parce qu'on a fait des enquêtes dans l'année qui a suivi, bien sûr, on a enquêté auprès des jeunes émeutiers. Et je vous confirme que c'est bien le mot émeute qu'ils utilisent. C'est pas autre chose. Et on disait, c'était pour dire, c'était pas politique, c'était pour dire quelque chose à l'État. Phrase que je me souviendrai, c'est gravé toute ma vie. Hein. C'est une phrase authentique, hein. Citée, on peut mettre des guillemets à l'avant, devant et derrière. Donc il y avait un langage. Donc travailler avec. Pourquoi il n'y avait pas de mots? Parce qu'il n'y avait pas de possible. Il n'y avait pas de mots parce que l'interlocution était inutile, l'espace d'interlocution était inutile, c'était pas la peine de le chercher puisque c'était pas possible. C'est-à-dire, ce qui n'était pas possible, c'était d'aller au-delà de la rage. Autrement dit, si je résume, si je prends les choses au sérieux, pour pouvoir travailler sur ces mots et faire une enquête de ce type-là, il faut aussi travailler sur les possibles. Et pas simplement se contenter d'interroger les gens. Thèse que je partage sur la question des possibles avec Arjuna Padurai dans son bouquin extrêmement mal traduit, enfin le titre en tout cas, parce que le titre c'est La condition de l'homme global. Et la partie qui m'intéresse, moi, c'est tout son travail sur les bidonvilles de Mumbai, où il explique que pour faire de la bonne anthropologie, pour comprendre le monde aujourd'hui, il faut se plonger Il faut se plonger dans les bidonvilles, comme nous on s'est plongé dans les cités, mais on s'est plongé aussi dans les bidonvilles après, parce que c'est là qu'il y avait une pensée authentique du monde contemporain. C'était, si on voulait comprendre le monde, c'était là qu'il fallait aller. Mais qu'on ne pouvait mobiliser cette pensée que sur ce que lui appelle du possible, que nous on appelle de la prescription. C'est-à-dire que ça ne peut être que dans l'action et dans la possibilité d'action. C'est-à-dire dans l'analyse qu'on peut partager aujourd'hui avec ceux qui se mobilisent, ce n'est pas une analyse de la société pour elle, pour la beauté de la connaissance, c'est forcément une analyse engagée dans la recherche d'impossible et l'identification éventuellement de ce fameux antagonisme dont on parle, mais qui devient un peu compliqué à identifier. Donc là, il y a besoin d'un nouveau dispositif, de recherche. Bon, Sylvain Lazarus et Amar, moi j'étais pas là-dedans parce que j'avais justement quelques responsabilités, il y avait des concurrences d'agenda, on va dire. Bon, on continue à travailler avec des jeunes de cité avec lesquels ils avaient travaillé avant, mais sur cette nouvelle hypothèse à Grigny, à la Grande Borne de Grigny, pendant plusieurs années, de 2005 à 2009, ce qui nous a permis d'amener, alors là la restitution s'est faite dans l'autre sens, d'amener des jeunes de la cité de la Grande Borne venir exposer le résultat de ce travail collectif à l'amphi X de l'université de Paris 8 dans un colloque international. Ils étaient à la tribune, ils avaient des textes qu'ils avaient travaillés avec les anthropologues. Et c'est eux qui ont porté ce travail sur la situation des jeunes dans les cités. Alors, cette expérience-là, on a essayé de la démultiplier en créant avec des collectivités territoriales et, quand on le pouvait sur place, des militants associatifs ou des militants de mobilisation, un observatoire international qui a d'abord été un observatoire franco-brésilien, parce que nos premières expériences ont été au Brésil et dans la banlieue de Porto Alegre, à Canoas. Un observatoire international avec l'idée, on fait un dispositif d'enquête où on met ensemble sur une situation des élus, des chercheurs et des gens de statuts divers, mais des gens qui ont la particularité de vivre la situation sur laquelle on enquête. Et on travaille ensemble sur une intellectualité de la situation qui nous permette de définir des possibles et éventuellement de faire des propositions. C'est dans ce cadre-là, notamment, que ce travail à la Grande Borne avait été finalisé au bout du compte, puisque l'observatoire a été créé à ce moment-là. Bien sûr, dans ce dispositif, chacun y vient avec sa propre intellectualité, chacun y vient avec son propre parcours et son propre intérêt. C'est-à-dire que quelque part, contrairement à l'hypothèse de la communauté scientifique élargie de départ, et contrairement à ce que Hugh Schwartz essayait de dessiner dans son bouquin, ce qu'on va produire, ce n'est pas un savoir unique. Il n'y a pas une uniformisation. Tout le monde va avancer. Tout le monde va progresser en savoir sur la situation. Éventuellement, on va pouvoir en parler ensemble, pour une part de ces choses-là. Et donc, s'alimenter, c'est ça l'essentiel, alimenter l'avancée en savoir de chacun du travail avec les autres. C'est-à-dire que ça demande des séances, des retours, des discussions, des engueulades, de la construction de textes. Mais à la fin, chacun va en faire ce qu'il a besoin d'en faire. C'est-à-dire que les élus, ça peut se transformer en une inflexion sur des politiques municipales. Les ethnologues ont un séminaire sur les mobilisations et états contemporains, tel qu'on l'a fait l'année dernière. Et les militants sur le terrain ont une réorganisation de leurs objectifs, de leur mode de mobilisation et de leur discours, éventuellement, et de leur mise en mots des situations. Pour que ça marche, alors là, je vais avoir besoin de... Je vais commencer à mettre des images.
Je vais l'installer. Ouais.
Pour que ça marche, il faut de la durée. Il faut de la durée pour que tout le monde puisse bouger. D'abord, il faut de la durée parce qu'il faut de la confiance. Voilà, tout simplement. Ça peut pas... Quand on a commencé, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler à Dakar en 2010, et qu'on a fait une séquence de recherche qui, en gros, s'est achevée l'année dernière. La recherche ne s'est pas achevée, mais la séquence, oui. On a à peu près réalisé les objectifs qu'on avait envie de réaliser. Ça ne peut pas se faire sur une mission d'une semaine, ni de 15 jours, ni d'un mois. C'est-à-dire qu'il a fallu s'installer, revenir régulièrement, et à chaque fois qu'on revenait, c'est-à-dire qu'on manifestait simplement par notre effort, de 5 heures d'avion, les frais de mission, etc., qu'on revenait, le niveau de crédibilité, le niveau de confiance augmentait. C'est devenu les amis. Je ne vais pas vous raconter la même chose, mais on a fait un travail à une petite échelle sur la question du logement des Roms à Saint-Denis, avec les Roms. Là aussi, ça a duré plusieurs années. Hein, et de présence, je ne dirais pas quotidienne, mais presque hebdomadaire. Donc, quel était le problème pour nous? Pourquoi est-ce qu'on est allé là-bas? On est allé là-bas parce qu'on travaillait sur les mobilisations contemporaines, qu'on avait vaguement... Ça va finir par marcher. On avait vaguement l'hypothèse que ces transformations des mobilisations contemporaines, elles avaient une dimension mondiale. On l'avait un tout petit peu ressenti quand on avait travaillé autour de Porto Alegre. On a fait quand même un travail sur 2 ans sur Porto Alegre. Et ça nous intéressait de changer de continent pour voir si des choses fonctionnaient de la même façon. Bon, l'avantage de Dakar, c'est qu'il n'y a pas de problème de la langue. Je suis d'une génération qui a beaucoup de problèmes avec les langues étrangères. Et puis on avait des contacts sur place. Et puis Sylvain a quand même un passé d'enquête africaine, un africaniste assez compétent. Donc, on savait que sur cette presqu'île et cette petite agglomération, hein, c'est quelques millions d'habitants, il se passait des choses qui pouvaient nous intéresser. Il y avait des mobilisations que moi j'avais repérées, d'autres que des collègues sur place avaient repérées. Et on avait envie d'y voir plus clair et d'essayer de rencontrer les gens. Alors parmi les premières mobilisations, c'est les coupures, celles qui étaient générées par les coupures régulières d'électricité. Pour une raison simple, c'est qu'il y a bien des centrales pour faire de l'électricité au Sénégal, mais c'est des centrales au gasoil. Et l'argent destiné à acheter le gasoil allant assez régulièrement dans l'apogée ministre, ils n'avaient plus d'argent pour acheter le gasoil parce que les fournisseurs n'avaient plus envie de fournir à perte. Donc il y avait des coupures d'électricité, ça c'était en train de... Mais c'est la moitié de la journée. Hein.
Voilà. On arrête régulièrement, on ne sait pas à quelle heure, et ça énerve un peu quand même. Et je pense que c'est là qu'on a inventé l'expression émeute de l'électricité, que moi je connaissais et qui était assez, assez récurrente. Donc, intéressé d'aller voir un peu ce qui se passe là et ce qu'en disent les gens, d'autant plus qu'il y avait des mobilisations sur la question de l'électricité, il y avait tout un mouvement, dit mouvement des imams. Parce qu'en fait c'était un imam, un ancien haut fonctionnaire qui était la tête du mouvement, mais comme vous avez dit, c'est un mouvement laïque, hein, il y a des représentants des autres confessions. Il y avait un pasteur aussi. Ensuite, deuxième chose qui nous a intéressé, l'autoroute à péage et la construction d'une autoroute à péage dans un pays qui est à un des PIB habitants les plus bas du monde. Donc, qu'est-ce que Bouygues va faire ? Parce que c'est Bouygues qui construit, bien sûr. C'est tout comme ça, hein, le port, c'est Bolloré. Enfin. Qu'est-ce que Bouygues va faire dans cette autoroute à péage ? Il s'agit en fait de... Là, ce qui nous intéressait, c'était cette zone-là qui est la banlieue. L'autoroute à péage, c'est ça. En fait, c'est pour raccorder le centre, le plateau, le centre politique de Dakar avec le projet de grand aéroport international qui devait être ouvert en 2012, qui n'est toujours pas ouvert. Voilà. C'est bien sûr à destination de... À une autre échelle, c'est l'idée qu'on avait eue en France de faire un train exprès pour ceux qui vont à Roissy pour pas qu'ils passent par le RER B qui est toujours en retard, etc. Enfin, voilà. Mais sauf que l'autoroute à péage qui traverse la ville, ça veut dire des expulsions. On appelle ça des déguerpissements là-bas. Et donc, il y a des mobilisations contre les déguerpissements nous a intéressé, bien sûr, l'écarpissement d'habitants, mais aussi l'écarpissement de ce qu'on appelle des zones d'affaires. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce type de ville, mais les zones d'affaires, c'est des zones qui ressemblent plus à des bidonvilles, où sont, là, ça y avait 500 garagistes qui étaient directement concernés par le passage de l'autoroute à péage et qui se sont défendus, qui sont des... qui se sont défendus, y compris par les meutes, dans la période qui a précédé l'élection présidentielle, qui avait même obtenu quelque chose, éventuellement, je vous en reparlerai. Et puis, les déguerpis, on est allé voir un peu comment ça se passait, comment ils pouvaient résister aux destructions de leur maison. Si j'ai le temps, je vous raconterai un petit peu. Sauf que, au passage, donc ça c'est les trois choses qui nous intéressaient. Sauf que, au passage, on a trouvé autre chose. D'abord, les trois points de conflit sur lesquels on avait envie de travailler, on a travaillé dessus. Sauf que les coupures d'électricité avec la défaite de Ouad et l'élection du nouveau président, ils sont, disons que les circuits de corruption ayant été un peu déplacés pendant un certain temps, il y a eu assez d'argent pour payer le fioul. Donc, il y a eu de l'électricité, donc ça s'est un peu calmé. L'autoroute à péage, ils ont gagné. Ils ont gagné par la corruption et par la division du mouvement. Ça, c'est une chose qu'on a appris. On l'a appris parce qu'on a assisté aux engueulades et à la mise sur la table de la vérité, sur la corruption, entre les différents acteurs devant nous, hein, et puis on a pu en discuter avec eux. Mais ce qu'on a découvert au passage, qui était beaucoup plus durable, et sur lequel, là, je trouve que notre travail a été bien plus intéressant, c'est la question des inondations. C'est-à-dire qu'on a, au Sénégal, dans la banlieue, comprenez bien, cette partie-là, c'est une partie rocheuse, c'est l'île, hein, enfin, c'est l'île. Là, vous avez un ancien cordon littoral, donc c'est beaucoup plus bas. C'est protégé par une ligne d'arbres ici. Et la population, enfin, les catégories, l'aéroport international est là. Les catégories populaires ont été évacuées, déguerpies du centre de ce qu'on appelle le plateau, qui est maintenant la Médina, qui sont les quartiers un peu plus. Un peu plus épais, et déplacé sur cette zone-là, qui est une zone de dunes, mais qui n'était pas du tout inondée au départ. Et qui maintenant est inondée systématiquement tous les ans, ce qu'on appelle, au moment de ce qu'on appelle l'hivernage, c'est-à-dire à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Et c'est dramatique, hein, c'est des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent avec jusqu'à un mètre d'eau chez eux, les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, comme il n'y a pas de fosse septique, je vous laisse imaginer le reste. Ça pose des problèmes sanitaires considérables et systématiquement il y a un plan hors sec qui est lancé. Quand il y a un plan hors sec qui est lancé, les fonctionnaires du ministère sautent de joie et ouvrent le champagne parce que le plan hors sec, ça fait beaucoup d'argent qui arrive, qui part des ministères pour aller vers les quartiers. Il y en a très peu qui arrivent vers les quartiers. On leur donne des pompes, on ne leur donne pas l'essence. Enfin, bon. Donc, ces inondations, il y a une mobilisation sur place pour y faire face quand elles ont lieu, mais avec une réflexion collective des habitants sur la façon de s'en sortir de façon durable, pour pas que ça se reproduise tous les ans. Alors, c'est au point que ce que vous voyez là, ça c'est vraiment dans les zones sur lesquelles, dans lesquelles on a travaillé, c'est que vous avez, c'est des bassins de rétention, c'est-à-dire c'est des zones où on a fait des trous pour retenir l'eau, lorsqu'il y a des inondations, et puis toutes les pompes renvoient l'eau vers ces bassins de rétention, ils sont vite pleins. Et puis ça, c'est pas du tout des bassins de rétention. Ces zones-là sont des zones basses, qui sont des zones où il y avait des habitations, et où, progressivement, le marécage a repris ses droits. C'est-à-dire qu'il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, les aires de marécage qui ont envahi les maisons, il y a de l'eau jusque, en permanence jusqu'à la moitié des portes, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire il y a la flore, mais aussi il y a la faune, hein, les serpents, tous les moustiques, donc de la malaria. Donc il y a quelque chose de durable qui est en train de se passer. Tout le travail de l'État, tout l'argent, toute la compétence des services ministériels sont orientés sur l'événement, c'est-à-dire le plan hors sec, qui mobilise des moyens, des pompes, des sacs de sable, et puis les gens se débrouillent, ou des déguerpissements. On prend les gens et on va les mettre dans d'autres zones ailleurs. C'est le plan de Jarai qui a été fait au début du siècle. Mais ces autres zones ailleurs, elles finissent par être inondées aussi. Bon. Donc on les voit un peu mieux, là, les zones. On voit la trace des anciennes habitations. Tout ce qui est vert, c'est vide, il n'y a plus personne. Hein, ça est... Alors, en réalité, en travaillant sur cette mobilisation-là, on a appris des choses de différents rôles. On a travaillé comment ? On y est allé plusieurs fois par an. À chaque fois, on a constitué, au fond, on a constitué localement un collectif de travail qu'on a appelé l'annexe dakaroise de l'Observatoire international, avec des militants associatifs, des représentants de l'association des déguerpis, de l'autoroute, des associations de inondés, du mouvement des imams, de l'association des garagistes. Il se trouvait que là-dedans, en plus, il y avait des élus locaux, et puis des professionnels, quelques professionnels, des techniciens du ministère, mais un peu en dissidence avec leur administration, et qui portaient un autre discours sur le terrain et qui aidaient le mouvement associatif. Et on a essayé de penser avec eux deux choses, c'est-à-dire à la fois comment porter, comment analyser la situation et faire des propositions, qu'est-ce qui était possible, première chose, et comment porter ce possible face au pouvoir politique pour essayer de déboucher. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Enfin, ça, je vous dis, ça a commencé en 2010. On avait voulu faire la création de ce groupe de travail permanent. On lui a donné une certaine sonalité, c'est-à-dire qu'on a animé, on a animé un atelier au Forum social mondial de Dakar de 2001, ce qui leur a permis de venir à l'université. 2011. Ce qui leur a permis de venir à l'université et d'avoir une certaine reconnaissance de leurs compétences sur la question. Et puis, il y avait aussi des universitaires qui vous ont aidés. Alors, c'est la part universitaire purement sénégalaise a été très compliquée à obtenir. Mais comme la part universitaire purement brésilienne quand on a travaillé au Brésil. Je reviendrai éventuellement dessus parce que c'est une autre affaire. Et puis après, on s'est réunis régulièrement dans les zones inondées, hein, chez eux, quoi. Chez eux. Donc, on a découvert d'abord, et ils ont pris conscience eux-mêmes, qu'il y avait une véritable expertise collective sur la situation. C'est-à-dire qu'ils ont été en mesure d'aller jusqu'à la rédaction d'un livre blanc sur les inondations. Livre blanc que nous avons publié avec une partie des Perdièmes, parce que c'est un des pays, c'est le pays où il y a un des pays PIB par habitant le plus bas du monde, donc il fallait bien aider un peu, et puis on avait de quoi. Mais c'est pas ça d'ailleurs qui a été le plus efficace dans un premier temps, parce que l'idée, faut faire un livre blanc, il est venu assez vite, mais le passage à l'écrit était très compliqué. Et en réalité, on a réussi à passer à l'écrit que lorsqu'on leur a dit, parce qu'il y avait des jeunes étudiants, ou anciens étudiants de cours de cinéma de Dakar qui étaient là, qui nous ont accompagnés tout le temps, on a dit, on peut peut-être faire un film. Donc, on est venu avec les caméras, c'est eux qui ont pris les images, on a fourni un ordinateur, et on les a laissés monter le film en notre absence. Donc, la fois d'après, on a retravaillé avec eux sur le montage. Donc, je pourrais vous le montrer après, si vous voulez, il fait une petite vingtaine de minutes si on a le temps, sinon je vous passerai. Donc, ils ont d'abord fait le film, et ensuite, ils ont fait le livre blanc. Quel était le fond de l'expertise populaire? Le fond de l'expertise populaire, c'est que ce n'était pas une question de ruissellement d'eau, que la question, ce n'était pas de prendre des pompes pour mettre l'eau dans des bassins de rétention. Le problème essentiel, on le voit sur la photo d'ailleurs, est là. Le problème essentiel, ça c'est une ancienne station de pompage, c'est que toute cette zone-là est sur une nappe phréatique qui était autrefois pompée pour alimenter Dakar. Et comme il y a eu la création d'une énorme dépôt d'ordures en amont de la nappe phréatique, un peu plus haut, en haut de la photo là, ça a complètement pollué la nappe phréatique, donc on a arrêté de la pomper. Et on a été prendre pour Dakar l'eau d'une autre nappe phréatique qui est plus loin, qui est en partie utilisée pour des maraîchers et qui traverse toute la zone pour aller alimenter Dakar. Et comme on ne pompait plus la nappe phréatique, l'eau remontait. Donc même en période sèche, dans n'importe quelle maison, vous faites ça par terre, 5 cm, il y a de l'eau. Donc les gens savaient pertinemment et ils avaient des preuves à l'appui, et ils avaient une mémoire, que c'était une question structurelle et qu'il fallait repomper la nappe phréatique. Et y compris avec des propositions du style, cette eau, elle est polluée, mais elle est polluée de telle façon que ça serait de l'eau qui ferait des économies d'engrais aux maraîchers. Donc plutôt que de la renvoyer à la mer, comme on le fait au moment des inondations, on ferait mieux de l'envoyer aux maraîchers qui est en train de nous pomper de l'eau potable dont on a besoin, etc. Il y avait une véritable proposition qui a fait l'objet d'une conférence de presse, qui est passée à la télé, qui est passée dans la presse, le résultat, c'est que au moins l'effet d'annonce a eu lieu, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé de le faire. Ils ont décidé. Pas sûr qu'ils aient beaucoup pompé depuis. Mais ils ont décidé de le faire. Donc, première chose qu'on a trouvée, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait une véritable expertise populaire sur des situations. On a appris des choses sur les mobilisations, sur la puissance subjective de ces mobilisations, et sur l'incompétence d'un certain nombre de pouvoirs sur des situations réelles, incompétence organisée ou non organisée. En tout cas, il y avait ça. Deuxième chose que nous avons appris avec eux, c'est... mais ça, ils le savaient, mais on a pu mettre des mots sur les effets divers et variés que ça pouvait avoir, c'est la corruption du pouvoir. Les effets de la corruption du pouvoir. Alors, les effets de la corruption du pouvoir sur, sur le mouvement des Déguerpis, par exemple, puisqu'ils ont, ils ont réussi à le faire éclater, sur le mouvement des garagistes, parce qu'ils l'ont corrompu, et c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Mais plus que ça, c'est-à-dire que c'était impossible pour eux de dire « on va faire une pétition, une réunion publique, une manifestation ». Faire avec nous, sur le registre de l'expertise, une conférence de presse, oui. Faire une mobilisation dans les formats et le répertoire classique des mobilisations qu'on connaît, sûrement pas. Et on a mis du temps à comprendre pourquoi. Parce que, bon, dans un premier temps, vous savez, on n'identifie pas forcément ce qu'on trouve. On prend ça, des fois, simplement par une difficulté de terrain. Mais, non, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'en réalité, dans un pays où la corruption est aussi officielle, faire une manifestation, comme l'avaient fait les garagistes, je vous ai montré les photos, c'est comme si vous mettiez sur votre casquette « je suis prêt à être corrompu ». C'est-à-dire, c'est une candidature à la corruption. En discutant avec eux, c'était évident. Ils en ont été d'accord. C'est-à-dire qu'on a appris des choses sur le fonctionnement de l'État et sur la fermeture complète de l'espace politique, en fait, et de mobilisation politique, qui incluait un certain degré public de corruption des États. Bon, la corruption des États, c'est pas une affaire... en l'occurrence, c'est pas une affaire de... c'est pas parce que c'est l'État africain. C'est qu'on a quelque chose... Si, bien sûr, il y a un peu de la corruption coloniale. Mais enfin, quand même, le port, c'est Bolloré. L'autoroute, c'est Bouygues. Quand l'État a décidé de faire un canal de drainage, il l'a confié à Eiffage. Le pompage de la nappe, quand ils ont décidé de faire le pompage de la nappe, c'était l'équivalent chinois de Bouygues, avec lequel d'ailleurs on a pu discuter parce que le bonhomme parlait parfaitement français aussi. Donc il y a une présence, je dirais, de la mondialisation sous sa forme, une grosse puissance économique et une capacité de corruption évidente. Quand vous prenez ensuite le fait que le fils de Wall, le fils du président sortant, cumulait quand même 8 postes ministériels, tous en liaison avec des grosses entreprises, là il y a quelque chose de structurel. Qui nous ramène, quand on revient ensuite en France, on se dit, tiens, ben comment, quelle forme ça peut prendre dans un pays comme la France. Donc on a appris des choses sur l'expertise populaire, on a appris des choses sur l'État et les conditions de fermeture de l'espace public, et donc on a appris qu'il fallait qu'on réfléchisse et qu'on fasse des enquêtes sur ce type de choses dans d'autres situations. C'est là qu'il y a une partie de ces savoirs qu'on a pu partager, une partie des savoirs qu'on a pu laisser là-bas, et puis d'autres qu'on va venir ensuite expérimenter et mettre à l'épreuve dans d'autres circonstances et dans d'autres espaces. Mais ça peut rebondir. Ça peut rebondir. Je terminerai là-dessus. Dernier mot. Ça peut rebondir, et c'est eux qui nous ont mis la puce à l'oreille. Si l'État... Parce que nous, on a assisté à la remise en route d'une pompe, d'une station de pompage. Donc, si ça marche, ils vont pomper. Ils vont envoyer l'eau aux maraîchers, etc. Et ils pompent aussi parce qu'il y a des problèmes de tarification d'eau. Ça leur coûte trop cher. Ils veulent faire baisser l'eau pour les maraîchers. Et donc, ils ne peuvent pas leur faire baisser l'eau de l'eau potable. Donc, c'est bien de leur envoyer cette eau-là. Mais si ça marche, normalement, ces zones-là, et il y en a d'autres, elles vont être asséchées. Elles vont être asséchées. Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà des zones dont le déguerpissement a été sans frais social. Les gens, ils sont forcés de partir parce que c'était invivable. Qui vont être de nouveau vivables. Qui n'appartiennent pas aux gens qui étaient là. Parce que c'est, pour une grande part, c'est de l'urbanisation informelle. Donc il y a un enjeu foncier qui va apparaître. Et derrière ça, il y a peut-être une nouvelle étape qui va être la question de l'État et des mobilisations sur l'enjeu foncier. Donc si on retourne là-bas et avec les mêmes interlocuteurs, ça va être pour se dire, voilà, comment... Et nos interlocuteurs, ils ont déjà des idées, hein, sur ce qu'on pourrait en faire, mais qu'est-ce qui se joue là ? Quels sont les termes de l'enjeu foncier qui est en train de s'ouvrir, et quels sont les possibles ? Et donc, quelle mobilisation ? Quel État sur cette question ? Voilà.
Je termine là.
Bah, tu vois, il n'y a plus rien.
Bon, voilà. Merci. On va éteindre la... T'as plus rien à montrer ?
Non, on sait jamais.
On sait jamais. Bon.
Mais laisse-le là.
Si ça chauffe et ça fait du bruit.
Mais ça fait un peu de bruit.
Ok, bien la parole est à la salle. Avez-vous des questions ? Personne ne se décide, alors j'ouvre le bal. J'aimerais bien que tu reviennes sur la première partie de ton exposé, et tu nous as dit finalement ce qu'on avait mis en place dans les années 80 avec les collègues que tu as cités, chute du mur de Berlin, ça ne marche plus. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? Pourquoi ça ne marche plus ? Pourquoi ça n'a plus marché d'après toi ? Et finalement, moi j'ai du mal à voir la différence. Peut-être entre, mais parce que peut-être qu'il y a nécessité de détailler davantage les dispositifs. Finalement, quelle est la différence entre le type d'enquête et d'intervention que vous faites à Dakar et ce que vous faisiez par ailleurs 30 ans avant dans les banlieues ?
Dans les banlieues, c'est pas tellement dans les banlieues. Dans les banlieues, on était déjà dans un dispositif d'incertitude sur l'acteur collectif avec lequel on pouvait travailler. Voilà. La rupture, elle a vraiment lieu avec la fin du XXe siècle sur la question du dispositif politique sur lequel le XXe siècle a fonctionné. Ce qu'on a appelé la politique au XXe siècle est largement pour les pays développés. Peut-être un peu différent sur les pays qui ont connu la colonisation, mais est largement adossé à un dispositif où on a une figure reconnue de l'antagonisme social, reconnue par tout le monde, ceux qui sont dans un camp et ceux qui sont dans l'autre. Même De Gaulle, il pense qu'il y a la lutte des classes. Une figure de l'unité nationale, l'État, la République, et une médiation entre les deux, entre l'antagonisme et l'unité, une médiation de représentation politique, qui sont les partis. Et les partis faisant la médiation entre l'un et le multiple, entre l'unité nationale et l'antagonisme social. Le tout dans un dispositif institutionnel. C'est-à-dire que les partis, ils existent, ils sont reconnus, ils sont organisés, ils ont de la durée, ils ont une mémoire, ils ont une culture, et ils fonctionnent explicitement, consciemment comme ça. C'est-à-dire qu'ils puisent une bonne partie à la fois de leur légitimité et de leur compétence dans le social et dans l'antagonisme social, et leur objectif, c'est de prendre l'État, d'une façon ou d'une autre, seul ou avec d'autres. Mais leur objectif, c'est de passer de l'antagonisme à une vision de l'unité nationale qui soit autre que celle qui est là, ou un peu autre, très différente, etc. Donc tout ça fonctionne autour, Sylvain appelle ça le classisme. Moi, j'appelle ça, c'est la politique du XXe siècle qui fonctionne comme ça. Alors, la politique du XXe siècle, elle fonctionne sur l'idée, elle ne peut fonctionner que si on pense que impossible, il y a un autre possible, que cet autre possible peut être soluble par l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une hypothèse qu'il y a une hypothèse révolutionnaire qui la fonde. Après, on peut se dire que les révolutions, c'est pas bien, donc on va faire ça plus calmement, etc. Mais ça a fonctionné sur l'hypothèse révolutionnaire. Le cœur de l'affaire au XXe siècle, c'est historiquement, c'était comme ça, c'était le communisme. C'est pas l'effondrement du mur de Berlin, mais il y a quelque chose en une dizaine d'années, de façon extrêmement rapide, donc qu'on voit disparaître à la fin du XXe siècle, c'est concomitamment l'existence de l'URSS, l'existence, la matérialisation de l'hypothèse révolutionnaire du XXe siècle. La fin de l'industrie, la fin du fordisme, qui était le substrat social sur lequel s'adossait cet antagonisme social, et la fin de la subjectivité qui va avec.
Ma question, voilà. Elle portait en fait sur le rapport à l'enquête, que ça change.
Mais nous, on était dedans. C'est-à-dire qu'on fonctionnait sur l'idée que la connaissance du social, elle pouvait articuler une reconnaissance académique et une utilité pour l'action. Et que cette utilité pour l'action, elle s'adossait à la fois à un dispositif théorique qui était le marxisme qui pensait l'antagonisme, et à un organisme politique. C'est-à-dire qu'on était à l'intérieur. Si vous voulez, c'était à un point. Le meilleur argument que je puisse donner sur le fait qu'on a vécu une période et qu'on n'est plus dans la même période, et que ça marche plus, c'est qu'il m'arrive des fois de retrouver des articles que j'ai écrits à l'époque, je ne comprends rien à ce que j'ai écrit à l'époque, parfois, mais rien. C'est-à-dire, je ne suis plus du tout dans la même intellectualité. Tous les non-dits, les références, etc., ne fonctionnent pas de la même façon. Donc l'adossement à un projet révolutionnaire avec un petit R, voilà, on va dire. L'adossement à un projet révolutionnaire institutionnalisé ne fonctionnait plus. Et la priorité à la connaissance du travail ouvrier fonctionnait plus non plus, parce que ce qui apparaissait comme des enjeux plus directement essentiels en termes de connaissance de la société, de connaissance de ses transformations et de conflictualité effective, n'était pas là. C'était la banlieue. En plus, ça s'est passé très vite. La disparition de la référence à la classe ouvrière, on peut la dater très précisément dans une série de débats publics en France au milieu des années 80, autour de la grève de Talbot et de la grève de Citroën à Aulnay, qui était dirigée par un militant de la CGT d'origine marocaine que je connaissais, j'étais dans la section de Villepinte à l'époque. C'était une grève ouvrière classique, tenue par le leader était un magasinier, parce que c'était un des emplois qui permettait d'aller partout dans l'usine, alors que sinon c'était complètement empoisonné. Bon, ce mouvement ouvrier, qui était un mouvement de travailleurs ouvriers d'OS, d'origine immigrée, mais d'OS, quoi, voilà. Il a été traité successivement, mais en quelques mois, c'est passé de grève ouvrière à grève immigrée, et même dans les dernières semaines, à grève chiite. C'est-à-dire l'identification a été, enfin, la désidentification et la réidentification a été extrêmement rapide. Identifié à banlieue, immigrés, musulmans, etc. C'est, sur cette période-là, c'est très net. Moi, j'ai réinterrogé après. 10 ans après, j'ai réinterrogé des ouvriers sur la plaine Saint-Denis, hein, des anciens ouvriers d'usines qui avaient fermé, c'était le même discours. C'est-à-dire qu'ils ils pouvaient encore se dire ouvriers, mais il n'y avait plus du tout cette représentation d'un collectif social et politique inscrit dans une histoire, inscrit dans un projet collectif, etc. C'était terminé. Ils ne voyaient plus que dans leur propre quartier, et des fois à leur propre endroit, ils ne voyaient plus que des immigrés. Alors que c'était les mêmes gens que 10 ans avant, et c'était des ouvriers. C'est-à-dire tout ce basculement qui a eu lieu. Donc, on ne pouvait plus travailler avec le même adossement, on ne pouvait plus travailler avec les mêmes outils théoriques, on ne pouvait plus travailler avec le même projet, on ne pouvait plus travailler avec les mêmes interlocuteurs. Ça faisait beaucoup. C'est pour ça qu'on est allé travailler dans la banlieue.
Moi, je me pose la question, je pense que vous avez ça en tant que chercheur, parce que dans Dakar, dans le cas de Dakar, je veux dire, c'est pas qu'il y a d'ambiguïté, mais on vous sent comme militant, prenant en position. Et je ne sais pas, je ne connais pas la composition de votre équipe, et on sent que, j'ai l'impression que vous êtes partie prenante, comme si c'était une ONG, et non pas des chercheurs. Vous pouvez être chercheur, pour rester militant, hein. Il n'y a pas de problème. Mais ça posera un problème d'équilibre. C'est-à-dire tous les interlocuteurs sont fait l'objet d'un choix. Donc vous avez vaincu tout ce qui était adversaire, le gouvernement, le pouvoir local, etc. Alors ça pose des problèmes de recherche pour les étudiants. Ça sera difficile aux étudiants de prendre cause, etc. Parce que vous avez dépassé, à mon avis, hein, je ne sais pas, vous avez dépassé l'observation. Vous agissez. C'est l'impression que vous dégagez. J'aurais voulu savoir aussi, dès que vous avez tiré des ouvriers de algériens d'Argentin. Qu'est-ce que les conclusions que vous avez tirées? Ça m'intéresse.
Je commence par là. Les ouvriers d'Argenteuil, en gros, ils nous ont dit, on a construit la ville. C'était souvent des ouvriers du bâtiment. On a construit la ville, et puis ils en avaient laissé des bouts. Hein. Ça s'était inscrit dans leur corps. Et on est des ouvriers. Si on rentre au pays, on est des immigrés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas notre histoire. Ils ne savent pas ce qu'on a fait là. On est simplement des gens qui sont partis. Si on sort du foyer pour aller se balader dans Argenteuil, on est des immigrés. Parce que les gens oubliaient ce qu'on avait fait. Donc le seul endroit où on est reconnu encore pour ce qu'on est, et y compris par les plus jeunes qui sont maintenant dans le foyer, alors c'est Adoma maintenant, c'est plus Sonacotra, mais à l'époque c'était Sonacotra, le seul endroit où on est reconnu comme ouvrier, c'est là. Donc on reste. Alors, ceci dit, entre parenthèses, il y avait juste la Sonacotra ne comprenait pas pourquoi ils restaient, mais ils auraient dû regarder la législation, parce que pour toucher leur retraite, il fallait quand même qu'ils soient six mois de l'année en France. Hein. C'est quand même assez scandaleux, mais c'est comme ça. Mais ils restaient beaucoup plus de 6 mois. Parce que c'était le seul endroit où ils étaient encore eux-mêmes. Voilà. C'est ce qui m'a renforcé dans l'idée du changement. Alors, sur la question du militantisme, je répondrai plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on travaille sur une situation, quelle qu'elle soit, c'est l'ethnologue qui vous parle, hein, je ne pense pas qu'on puisse avoir un regard neutre. Ce n'est pas une question de prendre parti, mais la compréhension d'une situation, son intellectualité, elle existe dans la situation. Et elle est portée par ceux qui vivent la situation. Il n'y a pas de vérité qui est ailleurs, en réalité. C'est vraiment de l'intérieur qu'on peut la comprendre. Et à un moment donné, s'il y a des regards, et il y a des regards complètement antagoniques, il n'y a pas de vérité neutre sur une situation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les historiens de la Révolution française vous expliqueraient, Sylvain l'expliquerait encore mieux que moi, que les meilleurs historiens de la Révolution française ont tous pris un point de vue pour chaque période. Pour raconter la Révolution française. On ne peut pas la raconter sans faire abstraction du regard de Robespierre, du regard de Saint-Just, du regard de Danton, etc. Et il faut choisir. On ne peut pas rester sur le banc. Ce n'est pas possible. Donc, dans ces situations-là, pour comprendre la situation, on est forcément de l'intérieur et on est forcément en décryptant un regard de l'intérieur. C'est, Gertz expliquait que l'ethnologie, c'était de lire, fallait lire la société comme un texte, mais fallait la lire par-dessus l'épaule des acteurs, parce que c'est les acteurs qui tenaient le bouquin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ça, c'est l'expérience des enquêtes dans la banlieue qui nous a confortés dans cette idée-là. Si on veut mobiliser de l'expertise populaire et de la pensée sur la situation, on ne peut la mobiliser que dans la prescription, c'est-à-dire que dans la recherche d'impossible. Mais on est tous comme ça, si vous voulez. Franchement, c'est l'exemple que je prends toujours, la façon dont fonctionne un robinet, le robinet de votre cuisine, ça vous passionne pas vraiment jusqu'au jour où il fuit. Et à ce moment-là, on se mobilise et on essaye de comprendre ce qu'il y a dedans. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout pour les gens ordinaires. On ne se mobilise vraiment intellectuellement que sur la question de comment avancer, comment transformer les choses, dans le quotidien comme dans les grandes choses. Donc on est forcé, si on veut avoir une bonne situation d'observation, on est bien forcé de travailler sur des situations conflictuelles, de mobilisation, et combinées avec le point précédent. On aurait pu aller interroger les gens du ministère, je ne sais pas s'ils nous auraient reçus, mais ça ne nous aurait pas appris, ça nous aurait pas appris grand-chose. On les a croisés, hein. On les a croisés en situation. La troisième chose, c'est que je n'ai jamais pu faire abstraction complètement d'un engagement, personnellement. Jamais. Et malgré toutes les difficultés, mais parce que je pense qu'il en est de même pour les universitaires. C'est-à-dire qu'on ne se mobilise vraiment bien intellectuellement que si on est dans la recherche de possibles. Je pense que la mobilisation... C'est pour ça que je pense que ceux qui comprennent et qui parlent le mieux ou qui montrent le mieux le monde contemporain aujourd'hui, c'est les créateurs. Ils sont aussi dans une mobilisation d'une certaine façon. Ils sont dans une transformation... Ça, c'est une raison intellectuelle forte. C'est le savoir pour le savoir, non seulement ça ne m'intéresse pas, mais je ne suis pas sûr que ça soit extrêmement efficace. Mais c'est vrai dans les sciences dures aussi. Voilà. Et puis après, on ne se refait pas. Hein, voilà. Je pense que j'ai envie de transformer des choses, donc il faut que le savoir qu'on développe, il serve aussi. Est-ce que c'est un handicap, pour répondre complètement à votre question, je pense pas, hein, je pense pas, parce que on n'est pas forcé de toujours travailler comme ça. Vous n'étiez pas là au début. C'est pas un modèle général. Un dispositif adapté à certains objets. Mais en l'occurrence, la question des mobilisations. Je pense que si on travaille sur le djihadisme, on n'est pas forcé d'être complètement en empathie avec les gens et de partager les savoirs. Voilà. J'en fais pas un modèle général. Je travaille aussi sur d'autres questions avec lesquelles j'ai absolument pas envie de partager quoi que ce soit. Mais dans ces situations-là, c'est pas un handicap, à condition qu'on soit... alors, on ne travaille pas comme une ONG, d'abord parce qu'on ne se fait pas payer et on ne paye pas. Ce qui établit des relations tout à fait singulières, notamment dans des pays du tiers-monde. C'est-à-dire que... parce que le premier réflexe, c'est « Bon, ben, faut que tu me trouves un emploi, combien tu me payes pour travailler avec moi, etc. » Donc, nous, ça a été niet. Si on a payé un ordinateur, etc., on l'a récupéré après. Ça n'a pas été facile, mais ça a établi des relations durables et saines. Voilà. Et puis ensuite, nous, on ne vit pas là-bas. Hein. On ne vit pas là-bas. Donc, on accompagne, on dit notre avis, on leur demande des explications. Et c'est eux qui font. Hein. C'est eux qui font. Le livre blanc, on les a observés, on les a aidés techniquement, etc. Mais le livre blanc, le film, la conférence de presse, ce sont les acteurs sur place qui l'ont fait. Nous, on a accompagné. De la même façon que quand on a travaillé avec les Roms, sur les Roms du Hanoul à partir de 2010, sur la question du logement, on a travaillé bien sûr avec eux, on ne peut pas être indifférent à leur situation, mais c'est eux qui ont mené leur barque et ça nous a donné sur les besoins de logement, parce qu'on était en confiance. Des résultats qui ont été extrêmement utiles et qui ont permis d'alimenter le projet de logement pérenne. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui, oui.
J'ai quelques questions. En fait, à un certain moment, vous avez parlé des savoirs sociaux populaires, des savoirs sociaux populaires, et vous avez parlé d'un centre de recherche, et vous avez donné le nom, j'ai pas pu retenir le nom, donc est-ce que c'est possible hein ?
L'Observatoire ?
Non, le centre de recherche
sur la société française.
Sur les savoirs sociaux populaires qui avaient été créés en lien avec les
Marxistes. Ah, c'était l'Institut de recherche marxiste, mais nous, on avait créé une association qui s'appelait le CRESF, Centre de recherche et d'études sur la société française. Ce qui prouve bien qu'on était aussi dans l'ancienne pensée, c'est-à-dire on pensait que la société se pensait à l'échelle nationale. Depuis, on est allé un peu ailleurs et on s'est fait un petit labo. Hein, on a travaillé sur contrat pendant plusieurs années. Moi, ça m'a permis. J'étais prof de lycée à l'époque. Ça m'a permis de me mettre à temps partiel, carrément, avec travailler soit avec des syndicats, soit avec des collectivités territoriales.
Il y a des archives, des travaux qui ont été.
Toute la revue Société française a été numérisée. Et elle est consultable sur le site de l'Université de Dijon, puisque moi j'étais rédacteur en chef, l'ancien directeur Serge Volikoff a été vice-président de l'Université de Dijon, il a fondé la MSH de Dijon, et donc, entre autres, un de ses soucis, ça a été la pérennisation de notre mémoire. C'est très bien fait. Mais c'est là, des fois, que je relis des articles. Alors, il y en a avec lesquels je suis encore d'accord avec moi-même, mais alors des fois, c'est quand même curieux. 30 ans après, ça fait drôle, vous savez. Vous verrez.
Du coup, après, vous avez parlé des années 80, où vous avez créé une revue, donc c'était la revue
Société française. C'est la revue Société française, c'est dans ce cadre-là. La revue Société française, je l'ai dirigée de 81 à 91. Elle a continué à vivre un peu, mais de façon plus académique, après, sous la direction de Yves Clos et de Jean-Pierre Terrail. Et puis, elle a disparu.
On parlait d'un type de corruption qui n'est pas habituel. Donc généralement, quand on corrompt quelqu'un, on le corrompt pour ne pas se mobiliser. Mmh. Et donc là, vous disiez que les gens évitaient de se mobiliser.
Oui, à cause de la corruption, pour ne pas apparaître comme candidat à la corruption. Parce que dès que vous... Mais parce que c'est... Mais oui, quand il y a eu la mobilisation des déguerpis, ça a été géré. Alors, ça a été géré par une sociologue et par une ONG. Les intérêts de Bouygues dans cette affaire, c'est la mobilisation des sciences sociales, se fait par tout le monde. Donc, ils ont convoqué les dirigeants des associations. Ils ont très bien identifié qu'il y en avait qui étaient propriétaires avec des titres et d'autres qui n'avaient pas de titres. Donc, un moyen de diviser. D'abord, ils sont tous ressortis avec un portable de la Réunion. Voilà. Donc, et ça s'est su. Donc, vous imaginez bien comment ils ont été reçus par les membres de l'association et les habitants du quartier quand ils sont revenus. Et puis, ils ont offert des indemnités de départ très différentes, très, très, très différentes entre les uns et les autres. Ce qui fait qu'il y avait des gens avec lesquels on travaillait pendant plusieurs années. À un moment donné, ils ne sont pas entretués, mais voilà, il y en a un qui est allé, qui a trahi, quoi. On l'a vu faire. C'est-à-dire qu'il est allé à la télé pour soutenir le président, disant que le décarpissement, ça s'était très bien passé, que tout le monde avait été bien indemnisé, etc. On l'a vu. Comme les garagistes qui se sont fait avoir, parce qu'ils ont joué. Ils ont joué la carte WAD et la réélection de WAD. Ils avaient pratiquement tout obtenu la veille de l'élection. Mais pas tout. Et puis comment elle a été battue? Rien. C'est une grande leçon pour les autres. Ça, ceux qui se mobilisent contre les inondations, et ça, c'est une leçon pour eux. Ils ne feront pas pareil. Ils ne feront pas pareil.
Mais, excusez-moi, ça me paraît paradoxal. Cette situation, finalement, de refus de se mobiliser, comment dirais-je, par crainte d'être taxé de corruption, de candidat à la corruption, me paraît quand même une situation un petit peu paradoxale. Alors, que faire? Que faire, justement, pour, je dirais, lutter contre la corruption, par exemple? Ça a été
je ne voulais pas parler, mais ça a été un des chevaux de bataille d'une association, enfin d'un mouvement qui s'est créé.